Bonjour à tout le monde. Pas toujours facile de prendre le micro, surtout qu'on a cette responsabilité de donner un message. Et puis ce message, en fait, quand j'en donne un, quand j'en prépare un, je me l'adresse aussi à moi-même. Je suis comme vous, c'est pas parce que je suis derrière ce micro que je suis tout de suite sur un piédestal. Et je crois que c'est le cas pour tous ceux qui prennent ce micro. Avant tout, je voudrais aussi dire bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Je vais faire un petit regard circulaire. Et donc, voilà, c'est toujours bien de pouvoir se réunir entre frères et sœurs, pouvoir prendre des nouvelles. Et je ne vais pas répéter les propos de Jean-Lionel. Mais quand je vois Christiane et Paul être là, c'est toujours un plaisir. Parce que de les voir absents, ça me rend un peu triste. Et ça me dit, ils ne sont pas suffisamment bien pour être avec nous. Et Angèle, c'est vrai qu'elle est, pas bien, elle n'est plus dans les îles du Pacifique, elle a rejoint la côte ouest du Pacifique, mais c'est un bonheur parce que voir comment, par quel moment elle est passée, et là, reprenant un peu sa tête, être avec nous dans le dialogue, c'est quelque part super. C'est vraiment très encourageant et acceptant sa situation maintenant pleinement. Ça, c'est un pas fait, je ne sais pas comment, si c'est le Seigneur, si c'est l'équipe soignante qui est autour d'elle, mais vraiment beaucoup de choses en progrès. Alors, ce message, c'est croissance dans l'Église. Alors, on parlait beaucoup d'Église. Alors, il se trouve que, je ne triche pas, mais bon, je lis un livre qui m'inspire beaucoup, qui parle plus de communauté chrétienne. Et donc, j'ai fait une transposition aux Églises. Mais une autre église aussi locale. Mais notre église locale, elle appartient au CEF, c'est Communauté Assemblée Évangélique de France. Donc quelque part, il y a aussi le mot communauté. Communauté, c'est un lieu où on se retrouve entre frères et sœurs, partageant des choses en commun avec notre foi en Jésus. Et puis pour ceux qui n'en sont pas encore là, ils sont intéressés. C'est pour apprendre davantage et voir en fait ce qu'il en est. Croissance dans l'Église, j'ai quelques versets dans Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, nous tous, nous sommes chacun de nous en voyage, le voyage de notre vie, avant tout, est un pèlerin sur cette route, et la croissance humaine du petit enfant dans le sein de sa mère jusqu'au jour de la mort est à la fois très longue et à la fois très courte. Et elle se situe entre deux faiblesses, entre deux pôles, complètement éloignés, mais qui finissent par se rejoindre par certains égards. La faiblesse du tout petit enfant est celle de celui qui est en fin de vie, faiblesse accompagnée par la dépendance, par les peurs, avec une certaine dose aussi d'égocentrisme qui nous caractérise tous. Sur le plan de l'activité physique, pas spirituelle, il y a croissance puis décroissance. L'enfant, l'adolescent chemine lentement mais certainement vers la maturité de l'adulte, beaucoup d'années nécessaires pour arriver à ce point-là, et qui implique une certaine autonomie et une certaine force. Puis arrivent les maladies et les fatigues un peu plus loin. Et on devient de plus en plus dépendant jusqu'à cette dépendance totale et on redevient comme un petit enfant. Si sur le plan de l'efficacité et de l'activité, il y a croissance suivie de décroissance, sur le plan du cœur, de la sagesse, de la spiritualité, de notre vie avec le Seigneur, il peut y avoir une croissance continuelle. Et dans cette croissance, il y a des stades donc précis. Le tout petit enfant vit de l'amour et de la présence. Le temps de l'enfance est celui de la confiance. L'adolescence vit de générosité, d'utopie, d'espérance, de doux rêves. Tout est possible, tout est permis. Et l'adulte réalise, s'engage, plus tard, mais bon, il s'engage, assume ses responsabilités, des responsabilités en tout cas, c'est le temps de la fidélité. Et finalement, la personne âgée retrouve le temps de la confiance, dépendant de l'autre, qui est aussi sagesse. Limitée par ses activités, la personne âgée devrait, a plus de temps pour regarder, contempler, pardonner, et aider en cela par son expérience de vie. Il a le sens de ce qu'est la vie humaine, de l'acceptation de la réalité. Il sait que vivre, ce n'est pas simplement faire et courir, mais c'est aussi accueillir et aimer. Il a en quelque sorte dépassé le stade où on doit tout prouver par l'efficacité. Faire, faire et faire. Et tout au long de ce voyage, des décisions, des divisions peuvent apparaître en nous, en notre vie affective et notre vie relationnelle avec les autres, en notre vouloir et nos tendances psychologiques ou pulsions, entre l'intériorité et l'extériorité, entre ce que nous vivons et ce que nous disons, notamment avec le Seigneur, entre nos promesses et puis la réalité, entre nos rêves et la réalité, et avec notre croissance et l'autonomie, les peurs par rapport à nos faiblesses, à notre vulnérabilité, à nos limites, à la souffrance et à la mort, deviennent plus conscientes, tout comme des barrières autour de notre vulnérabilité. Et le voyage de chacun de nous est un voyage vers l'intégration de notre être profond avec nos qualités et nos faiblesses, nos richesses et nos pauvretés, notre lumière et nos ténèbres. Prendre conscience de qui nous sommes, prendre conscience, comme tu disais, Jean-Lionel, nous sommes pauvres. C'est pas par nous-mêmes que nous pourrons prendre le vêtement du salut, mais c'est Dieu qui vient à nous et qui nous aide et qui nous prend par la main. Donc pour ça, on pourrait l'illustrer avec différents versets. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards, Proverbe 20-29, Proverbe 22-15, il y en a d'autres. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge et la correction l'éloignera de lui. Et on pourrait citer d'autres versets, Proverbe 2-1-10, Proverbe 3-13-14 et d'autres. Croissance de l'Église comme un petit enfant. Donc la vie en Église est à l'image du voyage de notre propre vie. On peut faire ses premiers pas dans l'Église, en tout cas je les ai faits ici dans cette Église en 2000, pour d'autres, à d'autres moments, et même ceux qui sont issus de familles chrétiennes, à un moment donné ils font leur propre pas dans l'Église, non pas en suivant leurs parents, donc quelque part tout le monde est concerné. Et on est peut-être aussi, moi en tout cas je l'étais, je me reconnais un peu là-dedans, plein de naïveté, d'illusions, en auréolant les aînés, en les mettant sur un piédestal, en tout cas ceux qui étaient là avant. Et avec l'expérience d'un certain nombre d'années de vie en Église, chacun prend pleinement conscience que la vie en Église n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Chacun prend, ou devrait prendre pleinement conscience de ses propres limites, mais aussi de celles des autres. Chacun prend, ou devrait prendre, pleinement conscience de son propre égoïsme. Moi, et encore moi, et toujours moi. Et pour illustrer ça, donc Exode chapitre 16, versets 1 et 3, je ne vais pas le lire, mais c'est... la vie en Église est aussi à l'image de l'exode du peuple juif, un peu dans cette marche dans le désert, vers la terre promise, vers la libération intérieure. Et vous vous rappelez, dès lors que le peuple juif était sorti, les murmures ont commencé à surgir très, très rapidement. Juste après le passage de la mer Rouge. Avant, il était pris par les aspects extraordinaires. Ah, tout ça, tous ces miracles qui avaient été faits, aussi cette mer qui s'ouvre, etc. Et partir donc à l'aventure, vers la libération. Et puis on fuit l'esclavage, on fuit l'oppression, et même la tyrannie des Égyptiens. Mais la mémoire est courte. C'est simplement juste un peu plus tard, quand le peuple juif eut oublié ce que c'était de vivre sous le joug égyptien,
Et quand l'extraordinaire lui fait place à un quotidien, parfois amer, régulier, ordinaire, prévisible, qui n'est plus aussi enchanteur, qu'il a commencé à murmurer contre Moïse, il en avait assez. Alors, quand on rentre dans une église, les premiers pas, plein d'allants, peuvent vite faire place, si nous ne prenons pas garde, à ces comportements aussi, confort, loin du moindre effort, besoin de sécurité, peur d'être dérangé, mais qui c'est celui-là qui est à côté de moi, là? Non, mais attends, mais c'est pas possible, moi je préfère avoir le, celui qui est toujours à mes côtés. Plus de force pour résister, contrôler notre langue et pardonner. C'est vrai que la langue, dans Jacques, c'est petit, comme le gouvernail d'un paquebot qui est tout petit, notre langue elle est toute petite, mais qu'est-ce qu'elle peut en dire? Et allons au-delà de nos pensées. Donc, l'église locale et l'église de tous les chrétiens devraient vouloir dire communion. Communion de cœur et d'esprit, de frères et de sœurs. Cela devrait vouloir dire répondre aux besoins de nos frères et sœurs, que nous nous investissions auprès d'eux, et cela est exigeant et dérangeant. Aller au culte le dimanche, ce n'est pas simplement comme prendre un ticket d'entrée pour le cinéma, prendre sa place, regarder le spectacle, en partir, point barre. La vie en église, et comme le dit notre organisme, en fait notre organisme de rattachement, si on peut appeler ça, KF, c'est aussi une communauté. C'est une communauté de frères et de sœurs, avec comme filigrane aussi, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. C'est non seulement assister au culte dimanche, mais c'est prendre soin des uns et des autres. L'Église au quotidien. Alors, on pourrait citer Hébreux chapitre 8, versets 7 à 10, ou 2 Timothée chapitre 4, verset 7, ou Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. On va lire 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Une église qui ne vit que tout feu, tout flamme n'est pas une vraie église. Elle implique surtout la fidélité au quotidien. Fidélité, non pas faite de choses extraordinaires, mais faite de choses simples. Le dimanche, par exemple, simplement dire bonjour. Un simple bonjour, et c'est des choses simples, mais quelque chose passe. Quelque chose de fraternel commence à s'instaurer, à se mettre en place. Une église aussi ne s'accomplit que lorsque ses membres ont décidé, ont accepté de ne pas faire de grandes choses, de ne pas être des héros, mais de vivre chaque jour avec une espérance nouvelle, comme des enfants regardant avec émerveillement le lever du jour et rendant grâce à son coucher. Des petites choses qui s'inscrivent dans le quotidien, mais qui sont tellement merveilleuses quand on prend le temps de s'y arrêter. Elle n'est en voie de pleine maturité, cette Église, que lorsqu'ils ont reconnu, chacun des membres, que la grandeur de l'homme est d'accepter sa petitesse, sa condition humaine, de rendre grâce à Dieu, mis dans un corps limité, des semences d'éternité. Pour qui a accepté le Christ et qui se manifeste à travers les petits gestes quotidiens d'amour et de pardon. La beauté d'une église, pour moi en tout cas, c'est la fidélité de chacun des membres à s'émerveiller chaque jour, à remercier le Seigneur et à prendre pleinement conscience du cadeau qu'il nous fait lorsqu'on vient vers lui. Pas grand chose, c'est lui qui nous donne le salut, c'est lui qui nous fait part de cette éternité. Un autre chapitre, la prise de conscience intellectuelle. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et dit : je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez pas si vous ne convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors après les premiers temps d'émerveillement, quand on vient à la foi, tout est possible, et c'est toujours tout possible, après les temps tout feu, tout flamme, on est bouillant, on est chaud bouillant, il y a le temps de la prise de conscience, de la vraie prise de conscience, de l'identité de l'Église, qui elle est, et de sa place dans la société, donc d'aller au-delà. C'est un peu comme l'enfant, on faisait ce parallèle avec notre vie, notre voyage dans la vie. On est vu un petit enfant, toujours collé à sa mère, toujours collé au sein, et après, progressivement, prenant conscience de plus en plus qui il est et l'espace dans lequel il s'inscrit. Notre démarche dans l'Église, c'est un peu pareil, prendre pleinement conscience de qui est l'Église, de sa place dans la société et dans l'Église universelle de tous les chrétiens. Pour chacun des membres, avoir cette vision ou une compréhension intellectuelle sont importantes et pour le service de l'Église elle-même, de la communauté elle-même. Mais cette conscience, contrairement à celle du monde, doit jaillir de l'émerveillement, toujours cette capacité à s'émerveiller au fil des jours et de l'action de grâce. Et ceci doit être au cœur de l'Église locale, sinon l'Église est en danger. Une Église doit rester toujours une communauté d'enfants, mais d'enfants non pas naïfs, sans intelligence, non avec une pleine conscience et une vision. Une communauté qui tend à devenir une communauté d'adultes, de sages, entre guillemets, de prudents, perd très vite le sens premier de l'Église et devient un groupe d'hyperactifs qui se perd dans la bataille. La vision aussi pour l'Église, c'est une vision à long terme, pour une croissance lente. Il n'y a pas de question là, comme dans le monde, pour les entreprises, le chiffre d'affaires, le bénéfice, c'est de satisfaire les actionnaires. Mais la croissance de l'Église, l'image de notre croissance, c'est une croissance régulière, persévérante, fidèle, de chacun de ses membres, et ce, dans l'émerveillement. Et en opposition, il y a un combattre nos pulsions, ce qui est en nous, ce qui pourrait nous conduire si on n'y prend pas garde. Car en chacun de nous, il y a un désir secret d'être considéré un peu comme un héros, un saint, un martyr. Il a peur peut-être aussi d'être enfant, d'être lui-même, d'être tel qu'il est, avec ses faiblesses. Mais par contre, faiblesse avec le Seigneur, qui le met à son niveau. Alors, plus une Église est vivante, faite de relations humaines authentiques, entre frères et sœurs, plus elle est une communauté de vie, avant d'être un regroupement de gens qui font des choses, et rien que des choses. Et plus elle doit donner aussi un sens aux questions fondamentales de chacun de nous. L'Église sert aussi à cela. Comme on l'a fait, notamment avec Pierre Barrito ces derniers temps, donner des questions et des réponses à la souffrance et mort, mariage, sexualité, place de l'homme et de la femme, autorité, sens de Dieu, place de la prière, du culte du dimanche, de la religion, pauvreté et richesse, gratuité ou cœur, espérance et angoisse, normalité, anormalité, injustice dans le monde. Et c'est vrai que dans cette Église, je le vois, on répond de manière régulière à toutes ces grandes questions. Et c'est le rôle de l'Église d'être là. L'Église, donc, doit se répondre à ces questions en mettant du sens sur chacune de ces réalités, d'en donner une lecture suivant les enseignements des Écritures, de la Bible, et de notre vie intime avec le Seigneur et l'Esprit-Saint en nous. La tradition de l'Église, ce qu'elle est et ce qu'elle vit, est une des réponses à ces questions. Quand je parle de tradition, alors bien sûr, ce n'est pas la tradition de l'Église catholique avec ses icônes, avec... Non, c'est notre manière de vivre, notre identité, et comment on vit ces choses, comment on vit notre relation avec le Seigneur, et comment on vit cette relation entre frères et sœurs. C'est ce qui rythme la vie de l'Église, c'est le culte, c'est ces réunions de prière décentralisées, c'est ces réunions d'études, les différentes activités faites, avec notamment les 15-35, avec la rue Casimir-Perrier, c'est ça. Et chacun dans l'Église est invité aussi à prendre progressivement conscience du sens de la tradition et de ce qui fait son identité, l'identité de l'Église. L'Église, l'affaire de chacun, mais au nom de la communauté, au nom de l'Église. Alors, pour l'illustrer, on pourrait prendre d'autres versets. Néhémie, chapitre 4, versets 16 à 18. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. L'Église, l'affaire de chacun, mais au nom de l'Église, comme on voit l'organisation de cette communauté donc, au temps de Néhémie. Donc il est important que les membres aient des projets personnels et des responsabilités qui leur permettent de prendre des initiatives. Mais il est important que ces projets personnels soient confirmés par l'Église, soient confirmés par la communauté, ou qu'ils jaillissent du discernement de l'Église. Sinon, ils iront à l'encontre de l'Église et pourront mettre même l'Église en danger. L'Église, affaire de chacun, mais l'affaire de tous. Donc, le discernement, et c'est ce qu'on va aussi rediscuter pendant cette assemblée générale, le discernement de la communauté implique que tous les membres de l'Église, ou au moins les responsables, le plus grand nombre possible, essaient de voir où sont les véritables projets de l'Église et dans quelle direction aller. Là aussi, il faut qu'il n'y ait pas de passion, ni volonté de convaincre les autres à tout prix, faire passer son image, faire passer ses idées. Il s'agit que tous écoutent les idées des uns et des autres, et que peu à peu, sans passion, que la vérité se dégage. Ce qu'on va discuter notamment, encore une fois, pendant cette assemblée générale, c'est un des aspects avec l'utilisation des offrandes, mais ceci nécessite l'accord de chacun, et qu'on y arrive sans passion, mais tous ensemble, et ça donne aussi une direction à l'Église. Au travers de l'investissement dans les différents projets, les centres de jeu, les missions à l'extérieur, c'est une part de notre identité qui se retrouve dans notre fonctionnement d'Église au quotidien. Alors, dans certaines églises, ça peut prendre parfois beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine, parce qu'à ce moment-là, chacun dans la communauté adhère personnellement au projet. Et l'Église, pour moi, c'est ça. L'Église, pour sa croissance, c'est l'ouverture au quartier, c'est l'ouverture au monde. L'Église fermée sur elle-même, avec le portail fermé, c'est une Église, certes, mais qui manque quelque chose. Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'Église locale, l'Église Rutenra, doit ou devrait s'inscrire davantage dans la vie du quartier, s'ouvrir aux voisins, aux amis. Certes, on ne peut plus mettre de panneaux indicateurs pour indiquer l'Église KF Rutenra, mais chacun d'entre nous pourrait être des panneaux indicateurs. Et les actions qu'on mène dans le quartier, notamment au forum des associations début septembre, c'est une manière d'être un photo indicateur. C'est une manière d'inscrire l'Église dans la vie de quartier. Une Église doit toujours se rappeler qu'elle est un signe, un témoignage pour le quartier. Les membres doivent être fidèles les uns aux autres pour assurer leur croissance mutuelle, mais être aussi un signe et une source d'espérance pour ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas forcément qui n'ont pas encore osé franchir le portail. Et donc une église, pour moi, est appelée à grandir peu à peu dans la relation avec d'autres, avec les gens du quartier, mais sans toutefois perdre son identité, perdre ses valeurs. Croissance personnelle et croissance de l'église. Je ne vais pas citer le passage, mais on pourrait, pour illustrer cette partie de Jean 1, verset 35 et suivant. Allez, pourquoi pas, on a encore un peu de temps. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent, ils virent où ils demeuraient, et ils restaient auprès de lui ce jour-là. » Ces deux disciples étaient André et Pierre. Donc croissance personnelle et croissance de l'Église, là, ne va pas sans l'autre. Chaque personne qui dans l'Église grandit en amour, en sagesse, en relation intime avec le Seigneur, dans la connaissance des Écritures, fait grandir toute l'Église. Chacun des membres de l'Église est responsable de sa propre croissance, mais aussi de l'Église tout entière, en se mettant au service des uns des autres. C'est parce qu'il y a des aînés, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont plus d'expérience dans la vie en Église et dans la vie avec le Seigneur, tirant un peu les autres, servant un peu d'image, servant un peu de modèle, et chacun de nous allant dans le même sens. Imaginez, chacun allait dans son sens, dans un sens différent, en Église et aller ailleurs, et pas imiter le Seigneur, ça n'irait pas. Croître dans l'amour, c'est devenir aussi peu à peu moins égocentrique, moins « et moi, et moi, et moi ». Moins critique, moins acerbe, moins agressif, moins intolérant des faiblesses des autres. Se cacher aussi un peu moins derrière les barrières de la tristesse, du ras-le-bol et autres formes diverses de la dépression. On se cache parfois derrière et en se cachant ses propres faiblesses. En disant « Ouais, ça va pas, ça va pas ». Mais en fait, ça va pas, pas forcément les autres, mais c'est aussi soi-même. Et on le voit, et quand je pense, même moi-même, j'y vais aussi quand je suis dans le travail, des fois pour manifester quelques faiblesses et difficultés à aller de l'avant, eh ben on se cache derrière ses paravents, on critique, on s'y abrite. Mais ce n'est pas là ce qu'on nous demande pour la croissance de l'Église et notre croissance personnelle et la croissance des autres. C'est pour ça que j'ai lu ce passage aussi de Jean qui est important et vous allez voir comprendre pourquoi. La croissance peut être facilitée, aidée du moins à ses débuts ou dans la prise de nouvelles fonctions, par un tiers, un témoin, qui permet de faire le point de temps à autre, d'évaluer si on est sur la bonne route ou pas, et sinon comment changer de direction. Par contre, cela suppose avoir une confiance indispensable, totale dans ce tiers, le témoin qui doit aussi demeurer à sa place. Ce n'est pas toujours facile d'avancer et en se livrant. Croire, comme on le disait, peut être facilité par des modèles. Et ses disciples, l'Église, comment elle est née? Ben, Jésus a appelé les disciples, ceux qui le suivaient, qui l'ont imité. Après, dans le livre des Actes, on voit aussi cette Église grandir au travers de ses premiers disciples. L'Église doit avoir des modèles. Et là, on va voir aussi au niveau de la transmission du savoir. La transmission, pas du savoir, mais de comment cette Église peut avancer et continuer à croître dans le temps. On parlait des personnes aux cheveux blancs qui sont là, qui passent, et d'autres générations arrivent. Et l'Église, elle est toujours là. Heureusement. Aujourd'hui, il suffit de se brancher sur France Info, ou BFM TV, ou je ne sais trop quelle source d'information. On a une tonne d'informations, énormément d'informations. Mais ces informations, c'est quoi? C'est des connaissances qui sont non structurées, non synthétisées, pas du tout organisées. Et on peut facilement se faire avoir sous le flot d'informations continuelles. Et on est tellement à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde, qu'aussitôt qu'un truc est fini en Argentine, c'est-à-dire on repart en Chine, puis après on part chez nous, puis après... Voilà. Mais certaines de connaissances, notamment, et la formation, voilà, implique une synthèse fondée sur les principes. Si vous n'avez pas ça, l'édifice va trembler. Et certaines connaissances de l'esprit, notamment de l'Église, des Écritures, de la spiritualité, de tout ce qui se fait dans l'Église, ne se transmettent plutôt que par voie de filiation. À l'image de la poterie, si vous voulez être un bon potier, si vous lisez tous les livres sur la poterie, vous pourrez faire peut-être des petites choses, mais pas comme celui qui a vu travailler un potier pendant des années. Et c'est après des années qu'il va pouvoir faire des choses, des super choses. De nos jours, voilà, on croit pouvoir tout apprendre dans les livres ou à travers Internet. C'est vrai, par exemple, la médecine, s'auto-médicamenter, c'est facile. On regarde sur Internet, tac, 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 Wikipédia ou je ne sais pas trop quoi, et c'est facile. Hein. Mais pour apprendre à vivre dans l'Église et apprendre à vivre avec le Seigneur, il ne s'agit pas que de se tourner vers des livres, bien sûr, il y a la Bible, mais d'être aussi engendré dans un certain esprit par tout un milieu porteur, notamment par des frères et des sœurs aînés dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on les remercie. Si l'Église en est là au jour d'aujourd'hui, saine, c'est grâce aussi à nos aînés. Celui qui vient d'être engendré, celui qui vient... qui arrive au Seigneur dans l'Église, a besoin de frères et sœurs auxquels il puisse s'identifier et qui puissent plus ou moins devenir des modèles, au moins pour un temps. Pourquoi? Parce que ces sœurs et frères aînés sont déjà passés par certaines étapes et peut-être certaines épreuves et ont trouvé une certaine paix intérieure et rayonnement. Ils ne se sont pas laissés abattre. Ces frères et sœurs peuvent ne pas donner des enseignements, il s'agit de simplement se laisser prendre par leur rayonnement, d'avoir envie de devenir comme elles, leur comportement, et qui, comme on l'a dit au début, est fait de choses simples. C'est pas être des héros, mais vivre sa foi de manière quotidienne, de manière fidèle. Alors les jeunes ont souvent toujours ou les yeux fixés sur les gens plus âgés. En tout cas, quand je rentrais ici, je voyais les gens, je voyais même ma femme, bon, elle n'est pas là, et puis je la voyais comme ça, puis bon, au fur et à mesure, bon, ma vue a un peu changé, mais prenant pleinement conscience. Par contre, c'est vrai que ces personnes âgées aussi ont un rôle essentiel. Tout le monde a son rôle dans l'Église. Si on les voit tristes, si on les voit acariâtres, si on les voit toujours critiques, on aura peut-être du mal à dire « Faux, je ne veux pas les ressembler et partir, mais voire même fuir le Seigneur. » Si par contre on voit les aînés plus unis, plus tendus, ayant moins peur, vivant aussi leur foi, ayant un comportement, on va dire, avenant, on les prendra probablement comme des références et on aura envie de continuer à transmettre cet héritage et à le vivre. Chacun à sa place. Pour qu'une Église puisse davantage croître encore dans l'amour, il faut prendre pleinement conscience de nos faiblesses et limites, des forces d'égoïsme, de la peur et de l'agressivité, ou du besoin de s'imposer. Des fois, il y a des gens qui s'imposent parce qu'ils ont peur eux-mêmes. Ils ont besoin aussi de s'auto-assurer en permanence, cachant peut-être aussi des faiblesses. Nous pouvons sortir de nos cavernes et de nos limites que si l'Esprit de Dieu nous touche, ou en tout cas qu'on se puisse laisser toucher par l'Esprit de Dieu, qu'il ouvre ses barrières derrière lesquelles on s'enferme, et qu'il puisse nous guérir, qu'il puisse nous sauver. Et cette croissance personnelle et de l'Église prend une autre dimension quand nous laissons Jésus pénétrer à l'intérieur de nous pour nous donner une vie et des énergies nouvelles. L'espérance, elle n'est pas dans nos propres efforts pour aimer. Il ne fait pas s'abriter derrière des paravents. La vraie croissance, elle vient de Dieu. quand on crie vers lui du fond de nous-mêmes et qu'on laisse son esprit nous pénétrer. C'est pas, encore une fois, comme tu le disais, Jean-Lionel, et je pense que c'est capital, c'est pas le salut. Le salut, on l'a pas par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous le donne, si on veut bien se laisser toucher par Dieu lui-même. Pour croître dans l'amour, il faut que les prisons de nos égoïsmes soient brisées. Cela implique des souffrances. C'est pas facile de se laisser toucher. Des efforts constants, réguliers, des choix répétés, et pour atteindre une certaine maturité dans l'amour. Mais il faut aussi sortir des élans, des utopies, des naïvetés, de l'adolescence. On peut vivre que cette relation qu'on est que si on devient adulte et plus adolescent. La croissance dans le Saint-Esprit nous fait passer du rêve, souvent de nos illusions, à la réalité. Au fond, nous avons chacun nos rêves et nos projets qui nous empêchent de nous voir et de nous accepter tels que nous sommes et de voir les autres aussi tels qu'ils sont. Les barrières des rêves ou illusions sont puissantes. Elles cachent nos pauvretés psychologiques, humaines et spirituelles que nous avons du mal à supporter. Et parfois, il est difficile de distinguer le rêve aspiration, qui peut être un bon rêve, qui motive, qui nous incite à aller plus loin, qui inspire nos vies, et du rêve barrière, qui est fuite et illusion. Donc l'œuvre de Jésus et de son esprit est de nous toucher plus profondément que nos rêves. Et quand nous découvrons Dieu, que Dieu vit en nous et nous porte, nos rêves ou illusions peuvent disparaître sans que nous tombions en dépression et en étant nous-mêmes avec nos faiblesses face au Seigneur. Et c'est tel qu'il le veut en fait. Et nous sommes alors tenus par ce don de la foi et de l'espérance, ce petit fil qui nous relie à Dieu et qui nous permet d'avancer dans la paix et dans la pleine confiance, jour après jour. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit que l'amour n'est pas dans les actes héroïques ou extraordinaires, parler en langue, prophétie, connaître tous les mystères et toute la science, etc., etc., avoir même une foi extraordinaire, la foi du charbonnier, entre guillemets, donner tous nos biens aux pauvres, être martyrisé, être sur la croix. Non, l'amour, au contraire, c'est être patient, rendre service, ne pas être jaloux, ni orgueilleux, ne pas parler tout le temps de soi, en exagérant ses propres qualités. L'amour, c'est de ne rien faire qui nuise aux autres, ne pas chercher nos propres intérêts, mais l'intérêt des autres. Ne pas être irritable, amer, agressif, ne pas chercher partout le mal en l'autre, c'est ne pas se réjouir de l'injustice, mais rechercher en toute chose la vérité. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 26, Paul nous dit que la croissance dans l'amour ou dans la croissance de la connaissance avec le Seigneur, c'est une croissance dans la joie et la patience, la bonté et la générosité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. À l'opposé de toutes les tendances de division qui nous habitent, avec le moi et le moi et le moi qui alimentent tout ça, haine, querelle, jalousie, fureur, dispute, dissension, scission, envie et toutes ces choses ténébreuses qui, en nous, nous cherchent fornication, impureté, la débauche, l'idolâtrie, sorcellerie, orgie, ripa, etc. Et la qualité pour vivre avec le Seigneur, finalement, et en Église, c'est avant tout la patience. Il faut des années pour passer du petit enfant à l'adolescent et à l'adulte. La croissance avec le Seigneur, elle ne se fait pas du jour au lendemain, elle est lente et régulière. Rien ne se fait en un seul jour. Pour pouvoir vivre pleinement en Église, il faut savoir accepter le temps et le chérir comme un ami. Prière, service et vie communautaire, un autre chapitre. Et une église doit intégrer chacun de ces trois éléments, prière, comme on le fait pendant nos cultes, pendant la semaine, comme on le fait aussi chez nous, le service d'être à l'écoute des uns des autres, au service des uns et des autres, comme on est dans une communauté, dans une église, et aussi l'écoute, l'accueil. Je sais que notre église, c'est bien, a une bonne réputation pour l'accueil, savoir accueillir. Quand on est bien accueilli, eh bien on a envie d'y rester. Si on est mal accueilli, la première impression qui est faite, le bonjour ou la poignée de main pour ceux qu'on ne connaît pas, si ce moment-là ne se passe pas bien, le reste risque de se mal se passer également. L'église, c'est tout ça. Quand une église est en bonne santé, elle constitue un pôle d'attraction. Je pense que l'inverse est vrai, quand elle n'est pas en bonne santé, c'est un pôle de répulsion. Quand les problèmes entre membres de l'église apparaissent au grand jour et qu'on n'entend parler que de ça, on n'a pas trop envie d'y aller. Et c'est important parce que quand on est là et quand on commence à venir à la foi et qu'on est jeune et qu'on voit tout ça se passer devant nos yeux, ça peut peut-être être aussi un moment où on s'écartera du Seigneur pour de bon ou pour un moment. La santé d'une église, voilà, donc se révèle à travers la qualité d'accueil du visiteur inattendu, à travers la joie et la simplicité des membres entre eux, à travers leur confiance dans les moments difficiles, on en a vécu et on est encore là, à travers une certaine créativité pour répondre aux souffrances des uns et des autres, on a son lot de bonnes et mauvaises nouvelles, mais il y a des mauvaises nouvelles, et on doit être au service de ceux qui passent par ces souffrances, des moments difficiles. Mais elle se révèle aussi à travers l'ardeur et la fidélité au but essentiel de l'Église, la présence de Dieu. Dieu doit être présent dans cette Église et aussi à l'écoute de l'autre. Une Église est ouverte aussi sur l'extérieur. Une secte, par contre, voilà, c'est l'opposé d'une Église. Elle a une apparence d'ouverture, mais avec le temps, on se réalise qu'elle se ferme de plus en plus. La secte, par rapport à l'Église, elle est faite de gens qui se croient seuls à avoir raison. Ils sont incapables d'écouter l'autre. Ils sont fermés. Il n'y a aucune vérité en dehors d'eux. Ils ont perdu leur capacité de réfléchir. Et eux seuls sont les élus, les sauvés, les parfaits. Tous les autres sont dans l'erreur. Par ailleurs, aussi le langage de l'élitisme, seules certaines personnes à avoir la connaissance sont mauvaises. Il n'est pas sain de croire qu'on est le seul à détenir la vérité, et encore moins de condamner les autres. Et ces attitudes n'ont rien à voir avec le message de Jésus-Christ. Et là, dans une église, il ne faut pas qu'un des membres puisse prendre le flambeau et dire « moi seul, j'ai la vérité ». Une église se base sur la reconnaissance que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés chaque jour et de pardonner 77 fois. Une église doit faire comme Jésus, proposer et non pas imposer. Ce qu'on va faire cet après-midi, c'est proposer, sans imposer. C'est l'amour des frères qui doit devenir une lumière chaleureuse qui attire. Un autre signe qui distingue la secte de l'Église, c'est que les personnes d'une secte s'en tiennent de plus en plus à une unique référence, le pasteur, le chef, le saint, le gourou. Ou c'est peut-être même cette personne qui s'est imposée comme telle dans l'Église. Méfiance. Un des signes de vie d'une Église est la création de liens à l'extérieur. Pas peur d'aller à l'extérieur, notamment avec notre famille d'Église, les KF. Il n'y a pas que la rue sonnera, il y en a d'autres. Puis bien au-delà, comme la semaine de prière qui vient d'être vécue en janvier avec l'ensemble des églises de Lyon qui font partie de l'appel le culte en commun, où on se retrouve, où on partage des choses ensemble. Un des signes d'une église est la fidélité dans ses valeurs et ses engagements. Il doit y avoir une tension particulière entre les valeurs comme héritage du passé, esprit et tradition, les besoins du moment, dans un dialogue sans cesse renouvelé avec des réponses et des questions avec la société qui nous entoure, et l'attention vers l'avenir, prévoir. L'Église, elle bouge
sans arrêt et continue toujours à se renouveler, à croître. Cet esprit, dans ses éléments essentiels, n'est pas proprement parlé un style de vie, il est plus que cela, il est l'espérance, l'incarnation d'un amour. Il se concrétise néanmoins dans la façon de concevoir l'autorité, le partage, l'obéissance, l'écoute, le service auprès des autres, la créativité des églises et des membres dans la propagation de l'évangile et de ses valeurs. Une église, c'est ça. Je vais passer à la conclusion, c'est vrai que ça fait un peu de temps que je commence à prendre le crachoir. Alors dans ce message, alors j'ai peut-être été un peu à l'eau de rose, un peu, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que j'ai omis de parler de plusieurs points importants et qui ne manquent pas d'arriver. Des épreuves, voire des souffrances, des afflictions, des détresses comme étape dans la croissance des églises, des tensions, des déceptions qui sont arrivées, on l'a vécu récemment et je ne veux pas y revenir. Mais ça, c'est des choses qui font partie de la vie d'église. Et même, je dirais que ça permet à l'église de continuer à croître, de se remettre en question, de se repositionner par rapport à ses valeurs. Donc il ne faut pas craindre ces moments, même s'ils sont, je dirais, difficiles. Et peut-être plus tard, dans quelques mois ou dans quelques années, ce serait bien qu'il y ait un message fait par quelqu'un d'extérieur et qui puisse nous parler de ça. Donc souffrance, déception, tension dans l'Église qui sont à la fois source de renouvellement et de croissance. En tout cas, une Église, elle ne peut pas rester statique. Elle n'est pas une fin en elle-même. Elle est invitée à bouger. Elle est un feu qui doit nécessairement se propager au risque de s'éteindre. Elle ne doit pas rester dans sa propre sécurité intérieure aussi, au risque de s'éteindre. Sécurité intérieure, aussi zone de confort. On se doit d'aller au-delà de notre zone de confort. Apocalypse 3, versets 15 à 20. Je connais tes vœux, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ces paroles pourraient être adressées à beaucoup de nos églises évangéliques, et aussi à beaucoup d'entre nous comme membres, et moi le premier. Où es-tu ? Tiède ? Froid ? Bouillant ? Et on pourrait s'adresser ces paroles, « Allons donc, un peu d'ardeur et repens-toi, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » C'est triste peut-être de voir, même sûrement triste, de voir des églises qui ont relâché leur premier amour. Nous avons tous besoin d'être encouragés et stimulés pour nous repentir et repartir avec plus d'enthousiasme, d'ardeur. Mais pour cela, il faut garder la porte ou rouvrir la porte de nos cœurs et laisser Jésus entrer. Osée chapitre 2, versets 19 à 20. Ou chapitre 2, versets 21 à 22, suivant les versions. « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde, je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Dans Ésaïe, chapitre 53, cette question, « Quel est le jeûne qui plaît à Dieu ?» Ce n'est pas de ne rien manger, mais ce sont les gestes d'amour envers les uns et les autres, envers l'autre aussi qui ne te connaît pas. Et si nous faisons de tels gestes, nous serons lumineux comme l'aurore. Petits gestes au quotidien. Nos pauvretés, nos plaies profondes, les plaintes du péché pourront être guéries si on se laisse guider par le Dieu, si on se laisse toucher par le Seigneur, et si on laisse l'Esprit Saint entrer en nous. Telle est la promesse de Dieu, si nous nous donnons aux affamés, à ceux qui sont dans la détresse, dans l'insécurité, qui se sentent seuls. Quand nos églises deviennent tièdes, ou pour s'en prévenir, il nous faut nous rappeler cette promesse de Dieu, ouvrir nos cœurs et nos portes aux plus pauvres, et être fidèles à répondre à leurs cris. Alors Dieu sera toujours là pour nous soutenir et nous guider. J'en ai fini. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé, c'est un petit peu long. Mais je pense que c'est important de retenir ça. Et encore une fois, une église, c'est pas le faire, c'est pas, mais c'est dans l'agir, c'est dans notre relation quotidienne avec le Seigneur. C'est pas des grandes choses, mais c'est des choses qui se répètent quotidiennement dans le temps. Amen.
Merci pour